moment de notre rendez-vous avec Jean-Luc Caribou. Bonjour Jean-Louis.
Oui, bonjour Odile.
Merci pour ce deuxième numéro donc, de Personnages extraordinaires dans l'œuvre de Giono.
Oui, c'est ça, c'est toujours le sujet. Personnages extraordinaires.
Alors aujourd'hui, vous allez nous lire sur le personnage d'Ennemonde, c'est ça?
Oui, alors Ennemonde, c'est un personnage, c'est une femme de l'un des derniers romans de la création littéraire de l'écrivain Jean Giono. Le titre du roman, c'est Ennemonde et autres caractères. Alors j'ai choisi quelques extraits de ce roman pour donner un petit peu un aperçu de ce personnage hors du commun qui est effectivement extraordinaire parce que c'est une femme qui est énorme aussi bien dans sa chair, dans sa graisse, que dans ses passions. Donc on va voir ça tout de suite avec les quelques extraits que j'ai choisis dans le texte. Elle était née fille Martin et elle avait habité pendant toute sa fleur au Gord des Oules, dans les trois vallons qui séparent le Ventoux de l'Ure. Elle se destinait à être institutrice, mais elle rata son examen d'entrée à l'école normale. Rentrée à la ferme, elle garda les moutons. Sur les pentes des Ubacs, vers le col de la Croix de l'Homme Mort, elle prit l'habitude de rencontrer, une fois par semaine, un jeune homme de Céderon qui faisait traverser la montagne à des chargements de bois destinés aux confitureries d'Apte et aux boulangeries de la vallée du Calavon. Malgré les bois touffus et les jolies alcôves de gelée, Ennemonde se maria en blanc. Le jeune ménage prit à ferme un chasse sur la hauteur du côté du Pendu à 10 kilomètres de Ferrassière. C'était un bon endroit, capable de porter 200 moutons. Ils commencèrent avec 20 brebis, défrichèrent leurs 6 hectares et, dès la deuxième année, furent installés sur du solide. Honoré imposa tout de suite à sa femme la chemise de nuit à trous. C'est une longue armure de grosse toile qui permet de faire des enfants sans fioriture coupable. C'est par ce procédé un peu ennuyeux qu'elle eut 5 enfants en 4 ans et demi, puis un chaque année jusqu'à 13. Elle perdit d'abord une 20aine de dents et finalement, elle fit sauter les 2 dernières avec la pointe d'un couteau. Elle était obèse, avec des fesses énormes. La ceinture de son mari, paraît-il, ne pouvait pas faire le tour de sa cuisse à sa racine. Par contre, sa poitrine s'aplatissait, mais elle gardait toujours ses beaux cheveux du noir le plus luisant. Elle n'avait même pas 40 ans. Et, merveille des merveilles, des chevilles d'une finesse extraordinaire. Honoré se mit à rétrécir. C'est une formule qu'on emploie ici pour un phénomène qui se produit assez souvent. Quand un homme ou une femme n'a plus assez de curiosité pour le monde naturel, il se réfugie dans l'insolite. Insolite, parfois très banal. Ne plus se déshabiller, par exemple, ou ne plus parler, ou ne plus marcher, ne plus aller à telle ville ou à telle foire, ne plus voir personne. Souvent, c'est aussi bête que de ne plus mettre ses mains dans ses poches ou de ne plus essuyer ses lunettes, de ne plus enlever son chapeau. Cela se fait, j'imagine, dans l'espoir que le monde, moins quelque chose, n'importe quoi, sera différent du monde habituel. Et de fait, ça doit marcher, puisque les gens qui rétrécissent de cette façon ne reviennent jamais plus à leur taille normale. Mais revenons à Honoré. Il n'eut pas un rétrécissement de grand seigneur, mais très embêtant tout de même. Il décida de ne plus jamais rien vendre, ni brebis, ni agneaux, ni moutons. Le troupeau se multiplia sans mesure, mais la surface des pâtures restait toujours la même. Les agneaux devinrent rachitiques, les brebis moururent. Les survivants étaient étiques. Les acheteurs, d'abord rabroués à chaque apparition, ne s'approchèrent plus du troupeau maudit. Ennemonde, privée elle-même du nécessaire, commença à trouver le café un peu amer. Elle passa tout de suite à l'action. Elle s'assura la complicité des 6 premiers enfants, les plus âgés. Ce fut facile. Et, avec leur complicité, elle s'empara du fusil. Honoré fut tout de suite relégué au second et même au 5e rang, la 5e roue de la charrette. Ennemonde fut assez intelligente pour lui laisser de quoi satisfaire sa passion. 20 bêtes, auxquelles elle s'engagea à ne pas toucher, mais pas 21, 20, si bien qu'elle profitait des agneaux. Elle mena le reste de main de maître, arme à la bretelle, avec ses deux aînés, qui avaient à cette époque respectivement 15 et 14 ans, c'est-à-dire des hommes. Elle fut rapidement et unanimement acceptée comme la patronne. C'est à ce moment que son histoire se recoupe avec celle de Clé des Cœurs, mais nous le verrons quand il faudra parler de ce personnage. Le reste est normal et sans histoire. Honoré fut tué quelques années après d'un coup d'épée de mulet, enfin, on suppose, et il y a de grandes chances pour que ce soit vrai. Il en avait un très cabochard. On trouva le cadavre entre les pattes du bourrin dans l'écurie, la tête défoncée et la marque des fers était très apparente. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de plus ? En 1930, elle s'acheta une B-14 d'occasion pour aller aux foires. C'est son aîné Samuel qui conduisait. Les chemins n'étaient pas beaux. Au col de la Croix, où elle avait eu son roman d'amour avec Honoré, la route était mangée par les pieds de mouton. Quand le voyage se faisait de nuit ou dans le nuage, il fallait taper sur les lanternes à coups de poing pour avoir un peu de lumière. Par temps clair, dévaler par là procurait des sensations fortes. Samuel restait froid, il était jeune, il avait vu réussir le coup d'état de sa mère. Plus rien ne l'étonnait, il descendait de là-haut à toute pompe. Un monde pris du plaisir. Le col de la Croix, dont le nom complet est le col de la Croix de l'Homme Mort, fait passer du plateau dans les fonds du Nord. Si on regarde bien, il y a de ce côté-là des gouffres. On ne s'en aperçoit guère quand on passe par ce chemin à pied, car on ne domine pas les fonds par des parois à pic, et l'œil a le temps de se reposer sur des plans très inclinés, mais forestiers. Les gens du Haut-Pays ne l'empruntent guère et préfèrent aller faire le tour à Sceaux et à Embrun, en allongeant leur itinéraire de 50 km. Il y a 30 ans, la route était entretenue par le cantonnier, c'est-à-dire que dans le courant de l'été, il allait s'y promener en portant une pelle sur l'épaule. Si on avait dit à Ennemonde d'aller faire le tour par Sceaux, Montbrun, Barré, etc., sous prétexte que la route du col de la Croix était coupée par les intempéries, elle aurait répondu qu'elle n'avait plus une minute à perdre. C'était vrai. Elle avait 41 ans. Elle se jetait dans les vallons du Nord comme on se jette dans le péché. Comme le péché, ils étaient ténébreux, parfumés et pleins de broussailles. Au bas de la pente, la route pénétrait dans de tortueux couloirs. Elle s'enlaçait à des ruisseaux qui, l'été, ne charriaient que des pierres, mais pouvaient soudain s'enfler en crue de 400 mètres de haut, suivant les orages. Elle foulait d'odorants tapis de thym, de sarriette et de lavande. Elle bousculait des bosquets d'aulnes et de saules fumant de pollen. Elle traversait des ombrages d'une douceur inexprimable. Samuel, qui arrêtait son moteur au col et descendait toute la pente en roue libre, tapant comme un sourd sur la pédale du frein avec ses gros souliers dans les virages, s'ébahissait chaque fois du prodigieux élan qu'il prenait dans cette descente. Il ne remettait son moteur en marche qu'au premier peuplier des fraissinières. Et le monde, elle, se laissait emporter. C'était magique. Il n'était plus question de poids et de volume. Elle était la plume qui volait au vent. Les chaos ne la précipitaient pas vers les abîmes, mais vers des ciels. Pour la première fois, elle avait affaire à une forte liqueur. Suivant que le virage la projetait vers la gauche ou vers la droite, c'était contre l'horizon au-dessus de Montbrun qu'Ennemonde allait s'appuyer jusqu'à toucher le soleil couchant ou contre les grands glaciers des Alpes par-delà lesquels montait la nuit. Si la course se faisait le matin, elle allait d'un côté frotter ses joues dans les vents de l'aurore et de l'autre passer comme une hirondelle au-dessus des brouillards qui contenaient Montbrun. De temps en temps, elle regardait son beau Samuel qui conduisait, très détaché des contingences terrestres lui aussi, tenant à peine le volant avec deux doigts. Si Honoré avait pu les voir, s'il avait pu surtout s'intéresser encore à eux, il aurait dû que ces deux-là étaient ancrés dans le péché, à leur aise dans le péché, arrivés au port dans le péché. De tradition, elle se payait ensuite la table d'hôte, avec Samuel, bien entendu. Samuel était son ange gardien. Elle regardait avec des yeux mouillés. Elle ne le lâchait pas son bras. Elle le serrait contre elle. Après les abîmes de la route, tous ces hommes avaient une odeur de bouc enivrante. En entrant, on passait devant une crédence. On y prenait une écuelle. c'est-à-dire une grosse assiette à soupe, un verre, une fourchette, un couteau, et on venait s'asseoir à la table d'hôte en disposant le couvert devant soi. On vous apportait aussitôt une boule de pain d'un kilo et un litre de vin, et on allait vous remplir l'assiette au chaudron. On avait droit à une deuxième écuelle de fricot, mais on comptait le prix double pour ceux qui faisaient renouveler le pain et le vin, ceux qui arrivaient souvent. Ce qui arrivait régulièrement à Samuel, qui mangeait à ce repas plus d'un kilo de pain. Edmond prenait sa deuxième écuelle de bœuf en daube, buvait son litre, mais ne mangeait pas tout son pain. Elle aimait par-dessus tout cette sauce lourde, mordorée, de lard fondu et d'huile vierge. Elle prenait chaque fois la précaution d'emporter de chez elle une cuillère à soupe cachée dans son corsage et à table, elle la sortait pour boire la sauce comme du bouillon. Ses gencives étaient dures comme du fer, mâchaient très bien la viande archi-cuite. Enfin, c'était bombance. Doublement, le ventre plein, elle se hasardait à s'éloigner mentalement de Samuel et même à le perdre de vue. Elle s'abandonnait à un vertige semblable à celui qui l'énivrait sur la route. Elle se voyait en train de scandaliser cette bourgade cafarde. Elle n'allait plus se frotter à des ciels, à des hauteurs, à des couchants, à des aurores, mais à des hommes sentant le bouc. Un jour, en sortant de table, elle vit un attroupement devant la porte Soubiran, où se tenait le marché des chevaux. Elle s'approcha. C'était un lutteur en maillot collant rose, debout sur un tapis. Il appelait au combat, en spécifiant qu'il s'agissait de lutte gréco-romaine. Il montrait du doigt un coussin de velours rouge sur lequel étaient épinglées des médailles. L'une d'elles, disait-il, était l'éléphant blanc et lui avait été décerné par le roi du Siam pour avoir battu un célèbre chinois. Ce doigt, pointé sur le coussin aux médailles, intrigua Edmond. Il était énorme. C'est en remontant du doigt au bras et du bras au reste du corps qu'elle fut éblouie par une beauté à sa convenance. C'était un amas de graisse et de muscles d'1,60 m de haut et d'1,50 m de large. Il n'avait pas de cou. La tête était plantée directement dans les épaules et il tenait attaché par une nuque bombée comme un melon d'août. Il n'avait ni regard, ni nez, ni bouche digne du nom. On le voyait respirer comme aurait pu respirer un rocher ou un bloc de fer. C'était aussi surprenant. Edmond se prit à respirer à sa cadence. Elle était fascinée par la coiffure de cet homme. C'était une chevelure de demi-chauve, graissée de brillantine, soigneusement alignée au peigne, avec l'arrêt sur le côté et un accroche-cœur sur le front. Elle en rêva la nuit. Elle se sentait emportée. Oh, que c'était bon! Voilà pour Edmond. Donc on imagine par la suite, si on veut lire le roman, les amours monstrueuses de ces deux personnages.
Jean-Louis Caribou, merci beaucoup pour ces moments de grâce sur Fréquence Mistral. Ces lectures de personnages extraordinaires de l'œuvre de Giono. Le prochain rendez-vous, ce sera mercredi 5 juillet à 9h30. C'est ça?
Oui, c'est ça, voilà. Exactement.
Est-ce que vous savez déjà les personnages dont vous allez parler?
Alors, j'envisage d'évoquer une œuvre de Giono qui est peu connue, un recueil de textes de petites nouvelles regroupées sous le titre générique de « Solitude de la pitié ». Voilà, dont nous évoquerons l'histoire de deux pauvres bougres, deux errants, deux SDF. Déjà à l'époque, il y en avait, bien sûr. Ils sont malades, ils sont pauvres, ils n'ont pas un sou en poche, ils ne savent pas où dormir. Ils sont un peu désespérés et ils décident de prendre la diligence pour aller jusqu'à la petite ville prochaine pour essayer de voir s'ils ne trouvent pas un gîte ou un petit boulot. Donc ce sera le thème de cette lecture qui met en opposition à la fois la pauvreté, mais l'amitié qui lie ces deux pauvres errants avec donc l'opposition avec l'égoïsme forcené des bourgeois chez lesquels ils sont accueillis dans la petite ville où ils se rendent. Voilà, Solitude de la pitié.
Donc rendez-vous mercredi 5 juillet sur 99.3 à 9h30. Et sachez que ces émissions sont bien sûr rediffusées régulièrement sur notre antenne et que vous les retrouvez en podcast sur www.fréquencemistral.com dans nos émissions.